s'agrippe à la terre. L'aube lave mon visage dans un cri qui me soulage. Je m'éveille à la lumière. Une vague souvenance qui serpente et qui se cache d'un cocon flexible et dense dont il faut que je m'arrache.
Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
La musique.
Carabanana maximum.
Ta gueule. Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne. partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse, partout ailleurs, à Mulhouse, aujourd'hui, puisque nous recevrons Mathieu Chenal. Bonjour Mathieu.
Bonjour Christophe.
Pour le festival Météo de Mulhouse, donc. On a commencé avec le groupe Na. On attend l'euphorie, bah effectivement, on l'attend. Et on en parlera tout à l'heure, si tu veux bien. Mais avant, tu sais, comme à chaque fois, afin que les auditeurs sachent qui leur parle, on va brièvement rappeler ton parcours et pour arriver à la direction de la programmation du festival Météo. Qu'est-ce que tu as fait avant ?
Et qu'est-ce que j'ai fait avant ? Eh bien, j'étais pendant un peu plus de 10 ans à Jazz d'Or à Strasbourg, qui est donc qui est aujourd'hui une smack jazz. Quand j'y suis arrivé, c'était encore juste entre guillemets un festival, mais déjà un festival important qui était assez historique aussi en France pour le jazz à Strasbourg. Et puis c'est devenu une smack, donc avec une saison de jazz. Et donc j'y suis rentré d'abord en stage, ensuite en contrat aidé, assistant de communication, puis chargé de communication, puis aussi des relations publiques, enfin tout ce qui était action de médiation culturelle, rencontres entre des musiciens et puis des publics, des enfants, voilà, tout ce genre de projet. Et puis en 2018, oui c'est ça, début 2018, Fabien Simon, qui était donc à la direction du Festival Météo, a décidé de s'en aller pour prendre ensuite la direction du Festival Son d'Hiver. Mmh. Et donc j'ai postulé à la candidature de ce Festival Météo à Mulhouse, que je connaissais déjà puisque j'ai grandi à Mulhouse. Et puis j'y suis allé quelques fois en tant que spectateur. Mmh. Et c'était un festival qui m'intéressait. Donc voilà, j'ai postulé, puis j'ai eu le grand bonheur de voir ma candidature retenue pour la direction du festival. Donc j'ai été directeur à partir de 2018 avec un été une édition de passation avec Fabien et puis aussi son collègue Moussa. Et à partir de septembre 2018, j'ai été seul aux manettes de ce festival. Voilà, avec ma première édition en tant que programmateur en 2019, puis les magnifiques années Covid 2020, mais qu'on a réussi à maintenir dans un format un peu réduit 2021. Et puis voilà, et puis là cette édition qui arrive du 23 au 26 août et qui est la 40e édition du festival. Donc c'est pas rien, avec un peu de pression évidemment quand on est directeur à la tête d'un festival qui fête sa 40e édition, il faut quand même pas trop se rater.
Ah ouais, 40 ans déjà le festival de Mulhouse, Jazz à Mulhouse jadis. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette histoire, comment c'est parti, comment ça a évolué? Parce que moi j'y suis allé pour la première fois en 97 et ça n'avait déjà plus vraiment grand chose à voir avec le... Enfin si, quand même, encore avec le jazz un peu, mais ça s'ouvrait déjà largement sur à l'initiative de Paul Kanitzer d'ailleurs.
Oui, bah alors l'histoire, c'est encore un tout petit peu confus pour moi les tout débuts, mais en tout cas on va dire que effectivement Paul Kanitzer, le directeur qu'on va qualifier d'historique d'effectivement Jazz à Mulhouse, et on a une pensée pour lui parce qu'au moment où on fête les 40 ans, Paul nous a quitté en toute fin ou tout début d'année, c'était vraiment le 31 décembre ou le 1er janvier, mais voilà, donc c'est quelqu'un qui a vraiment énormément apporté ces musiques là mais aussi à la vie culturelle mulhousienne, puisqu'il était aussi c'était aussi un photographe. Et il a œuvré dans une maison des cultures, de la culture à Mulhouse aussi. Et donc il a été directeur du festival pendant, je crois, une vingtaine d'années. Donc il en a fait vraiment ce festival. Un des grands grands festivals de musique improvisée, de free musique en Europe, en France et en Europe, voilà, plus largement aussi que la France, vraiment européen, avec tous les plus grands musiciens et musiciennes sont passés à Jazz à Mulhouse. Et ensuite c'est Adrien Chiquet, donc qui a pris la succession de Paul, qui a rebaptisé le festival Météo. Ah oui. Puisque effectivement il y avait une ouverture vers d'autres esthétiques plus expérimentales, donc voilà, le mot jazz ne correspondait peut-être plus, ou en tout cas moins à la ligne artistique que défendait ou que développait Adrien. Donc Météo, alors j'avais vu une fois que c'était en raison du caractère imprévisible des musiques finalement qui sont programmées à Mulhouse dans ce festival. Et puis ensuite Fabien Simon a pris le relais après 6 éditions d'Adrien. Fabien aussi a été directeur pendant 6 ans, avec beaucoup de succès, aussi bien artistique que public, et notamment, et puis aussi avec le binôme qui formait avec Moussa et qui forme toujours avec Moussassi, oui, à la production au Festival Son d'Hiver, magnifique festival également. Oui. Et donc ensuite, voilà, moi je suis effectivement à la tête de ce festival depuis 2018. Et aujourd'hui, voilà, depuis 3 ans, accompagné par Julia Mancini à la production et logistique, et ouais, voilà, mon binôme pour le festival pendant 6 mois dans l'année.
Eh ben, on en profite pour saluer chaleureusement Adrien, Moussa et Fabien. Fabien qui vient régulièrement présenter Son d'Hiver dans l'émission. Alors, je vais te poser la question qu'on rechigne à poser dans l'émission, mais allez, pour les auditeurs, pour qu'on sache à peu près de quoi on parle, comment parlerais-tu, définirais-tu, je dirais pas, mais comment parlerais-tu des esthétiques défendues dans ta programmation ?
Il y a plein de mots pour les qualifier, c'est toujours un peu un peu un grand bingo du qualificatif. Musique aventureuse, musique de création, aventure sonore, c'est ce qu'on met sur l'affiche. Musique improvisée, musique expérimentale. Bah, c'est vrai que c'est, voilà, au sens, alors on va dire qu'au sens le plus large, c'est des musiques improvisées, expérimentales. Mais bon, expérimentales, elles ne sont pas, je les qualifierais pas toutes d'expérimentales. Ouais, ouais. Voilà, la soirée d'ouverture, je pense Alexander Hawkins, Sophia Ehrenberg ou le projet de Mike Reed, Separatist Party. Pour moi, c'est pas expérimental au sens où, oui, c'est de la musique improvisée, mais ça, c'est du jazz. Alexander Hawkins et Sophia Ehrenberg, c'est de la musique presque. C'est à la fois la musique improvisée, du jazz, la musique contemporaine. Oui, oui. Ça ressemble presque à des leaders parfois. Voilà, c'est aussi, ils travaillent autour de la musique, des mélodies éthiopiennes. Donc musique libre, on dit aussi. Ici, ouais, on est dans l'émission Les Oreilles Libres, mais c'est des musiques libres, ouais, dans le sens où il y a vraiment effectivement une grande liberté esthétique. Et puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que j'aime développer pour ce festival, c'est vraiment l'éclectisme aussi, ouais, et de vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas deux concerts qui se ressemblent, donc d'alterner les formes, d'alterner le fait que ce soit acoustique, électrique, électronique, que ce soit un concert de noise, que ce soit un concert vraiment de musique très contemporaine. Je pense l'année dernière au duo Mara Winter et Clara de Assis, où on est vraiment dans la musique, ah oui, voilà, oui, très 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 chambriste, très très minimaliste, ouais, on n'est pas dans la noise. Et par contre, effectivement, le soir, on va avoir des choses plus, voilà, plus brute, mais avec cette sorte de narration, de voyage à travers le festival où il y a aucune limite et aucune restriction. C'est-à-dire qu'à midi, on peut y mettre quelque chose de très brutal, on peut mettre quelque chose de très calme à minuit, l'inverse. Ouais. Voilà, il y a vraiment un travail comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'aborde sur la narration, et voilà, que ce soit par jour ou dans la semaine, avec des contraintes de lieu, avec des contraintes de temps parfois, avec des contraintes de techniques aussi, parce qu'il y a des lieux, mmh, qui sont installés, des lieux qu'il faut ramener la technique. Tout ça, ça a un coût. Donc aussi, on navigue par rapport à ça, mais ouais, non, l'éclectisme, en tout cas, le fait qu'on s'ennuie pas et qu'on... C'est vrai que moi, ça m'intéresserait plus aujourd'hui de faire un festival où pendant 4 jours, on est des concerts qui soient vraiment sur une même, sur des mêmes formes. J'adore le free jazz, la musique improvisée, mais c'est vrai que d'avoir une semaine entière de free music comme ça, totalement improvisé, je suis moins emballé, ouais, aujourd'hui par rapport à ça. Au bout d'un moment, je m'ennuie quand même un peu. Mais ce serait le cas aussi d'avoir 4 jours de musique électronique, ouais, ou 5 jours de noise. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi, au bout d'un moment, ça va, ça suffit. Ouais. Donc, c'est vrai que là, je suis assez content de la programmation cette année. Quelques personnes m'ont dit que c'était pour eux la meilleure depuis que je suis arrivé. Ouais, je pense aussi, même si vraiment il y a eu des super choses les années précédentes. Mmh. Mais en termes de diversité, d'éclectisme et de propositions, je crois que ça va vraiment être une chouette édition. Et j'ai vraiment hâte d'être dedans.
Ah oui. Je pense que les auditeurs vont s'en rendre compte au fur et à mesure où on entendra des morceaux, qu'il n'y a pas une esthétique qui est privilégié. Et en tant que, c'est vrai qu'en tant que spectateur, c'est intéressant aussi de passer de l'un à l'autre. Et comme tu dis, on se lasse pas, quoi. Ce qui m'est arrivé parfois certains festivals jadis. Mais alors, il y a un terme également, là tu ne l'as pas dit, je crois, mais qui revient dans les textes et sur votre site et qu'on aime bien ici, c'est le terme de radicalité. Et justement, tiens, je reprends le texte de présentation, il fait mention d'une programmation radicale et ouverte à tous et toutes. Alors ça, ça nous va bien, ça nous intéresse fort, beaucoup. Mais comment est-ce possible, selon toi, de concilier les deux, radical et ouvert à tous et toutes ?
Bah, le mot radical, pour moi, il signifie pas forcément des propositions qui sont dans le hurlement ou dans le ou forcément fortes en termes sonores ou en termes de performances complètement dingues.
Choquantes.
Il est encore une fois, je prends l'exemple de ce qu'ont proposé Mara Winter et Clara de Assis l'année dernière dans une église, quelque chose de très minimal comme ça à midi, qui pour moi était une proposition hyper radicale. Alors qu'on peut pas dire que, enfin, c'est dans la proposition. La radicalité. Clara et Mara sont vraiment des personnes adorables et avec un talent dingue. C'est vraiment cette proposition-là artistique qui est forte, qui est radicale. Effectivement, ça m'intéresse beaucoup par rapport à toutes ces ersatz de musique commerciale. Enfin, oui. Ces musiques commerciales et ersatz de propositions. Donc on parle beaucoup dans des magazines, à la télé, enfin, de choses qui me semblent être complètement intérêt. C'est de la musique animatoire ou de la musique de... Ouais, c'est pas... Enfin... J'aime bien m'amuser aussi, hein, j'écoutais des conneries, évidemment, on aime tous faire la fête et danser ou faire du karaoké, enfin, c'est pas du tout un problème, et chanter sous la douche ou j'en sais rien, ou en vacances dans la voiture, mais là, sur le festival, effectivement, c'est des gens, il y a l'idée d'inviter quand même des artistes qui ont des vraies propositions, qui réfléchissent à ça, qui ont dédié leur vie, ou une partie de leur vie, mais enfin, pour la plupart du temps, c'est leur vie, à défendre ou à proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc, ça aussi, c'est l'idée que ce festival, pendant 4 jours, 5 jours, 4 jours cette année et nuit, on est dans une bulle de propositions très fortes, avec aussi, il y a la proposition musicale, mais aussi la rencontre avec ces artistes, puisque t'es venu, mais le festival permet de rencontrer, de dîner, de boire des verres avec tous les artistes très facilement. Et il y a cette idée d'échange avec des personnes qui ont quand même une approche qui est très très forte de leur instrument, de leur corps aussi, de leur position dans l'espace et puis intellectuel aussi. C'est ça me semble assez important et je rebondis sur le pour tous et toutes, ouais. Parce que on est grâce au soutien de partenaires, notamment les collectivités qui nous soutiennent beaucoup. On a la chance d'être un festival qui est très soutenu et très aidé à la fois par la ville de Mulhouse, la région Grand Est, le département et la DRAC, le ministère de la Culture. Voilà, je les ai tous cités. Mais en tout cas, ça permet de maintenir des tarifs accessibles, puisque là cette année le pass n'a pas augmenté. Hein, c'est toujours 80€ la semaine. Et on propose aussi des tarifs réduits à destination des demandeurs et demandeuses d'emploi, dans lesquels sont inclus les intermittents du spectacle, et différents tarifs, et aussi des concerts gratuits à midi, hein, puisque, et là, cette année, il y a 2 jours, il y a 2 concerts gratuits à midi 30, et pas des moindres, hein, puisqu'il y a Maria Chavez, Ben Lamarguet, Thibaut Florent et Tatiana Paris. C'est quand même pas c'est des artistes quand même exceptionnels qu'on peut voir gratuitement. On emmène aussi Damon Lox faire un concert dans un quartier de Mulhouse, au quartier de Drouot, en partenariat avec le Centre socioculturel du Drouot. Donc Damon Lox, musicien de Chicago, qui travaille beaucoup avec des jeunes dans les quartiers de Chicago et aussi en prison, qui intervient beaucoup pour faire des ateliers autour de textes, de collages à la fois sonores et visuels. Donc on avait envie de faire entendre sa musique et de faire entendre sa musique pour les gens de ce quartier-là, qui viennent pas forcément au festival à Motoko tous les soirs, mais que ça donne peut-être l'envie de le faire à un moment donné. Mais en tout cas, qu'il y ait des croisements comme ça, donc ouvert à toutes et tous. Vraiment, il y a les concerts pour les enfants le matin. Cette année, il y aura donc Clara Lévy, Sakina Abdou et Fanny Lafargue le premier jour, qui feront des concerts à destination du jeune public, donc à la bibliothèque, le matin à 11h30. Et ensuite, le soir, c'est 20€ pour 3 concerts, voire 5 concerts le vendredi soir. Mmh. Là aussi, pas des moindres. Donc, on reste quand même, et encore une fois, c'est grâce aux partenaires et aux subventions, on reste un festival accessible financièrement et on essaye de creuser des pistes pour que ça le devienne encore plus, parce qu'on a bien conscience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a diminué le festival, on est passé de 5 à 4 jours. C'est que les gens, on se rend bien compte que venir à Mulhouse pour autant de temps, pour 5 jours, c'est compliqué. Il faut se loger, il faut manger, il faut boire des verres. Enfin, on n'est pas obligé de boire des coups, mais c'est quand même bien aussi de temps en temps de boire une bière. Donc c'est pas évident. Donc finalement, sur 4 jours, ça devient peut-être un peu plus accessible.
Ah, d'accord, ouais.
Voilà, il y a cette réflexion-là que, effectivement, sur 5 jours, on était content de prendre autant de musique et de passer autant de temps. Mais c'est vrai qu'il y avait cette dimension de pouvoir rendre les choses encore plus accessibles, ouais, et de condenser un peu les choses.
Ah ouais, d'accord. Bon, on va en reparler. Tu vois, dans le terme de radicalité, moi, je voyais pas, je faisais pas un comparatif avec extrême. Tu vois, pour moi, radical, c'était pas extrême, mais c'était effectivement, comme tu l'as un peu dit, plutôt hors des circuits commerciaux. Tu vois, tout simplement. Hein. Et ouais, la question. Ouais, parce que tu vois, moi, je travaille dans un cinéma où on a des prix pas chers. Toi. Là, tu viens de nous parler des prix qui sont abordables et tout ça, mais pour autant, je crois que même des propositions peu onéreuses, c'est pas pour ça que le public vient, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour les faire venir le public sur ces musiques hors commerciales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ?
Alors, on rentre dans un sujet qui est passionnant,
oui,
parce que là, ça heurte l'actualité.
On reviendra à l'actualité.
Si oui, ouais, mais voilà, mais pour moi, c'est vraiment un sujet, effectivement. On est, toutes ces structures culturelles, dans lesquelles j'inclus bien sûr Météo, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'il y a quand même un constat, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui ne vient pas.
Et ouais.
Alors bon, c'est presque encore plus pire, ou je sais pas, dans certains opéras, théâtres, scènes nationales.
Oui, bah.
Mais évidemment qu'on a un public qui est très restreint, que ce soit à Météo ou ailleurs. Mmh. Alors, nous, dans notre petite équipe, on n'a pas de saison, donc on développe pas énormément d'actions de médiation, ce qu'on appelle, oui, des actions de médiation en direction de public, que ce soit des personnes retraitées en maison de retraite ou des jeunes dans les quartiers, dans les écoles de musique. On aimerait le faire, on essaye d'y travailler pour d'avoir un peu plus d'argent, de moyens pour pouvoir le développer. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail là-dessus. C'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est de multiplier les partenariats, même si notre position à la fin du mois d'août, presque milieu, la cette année du mois d'août, c'est pas évident, il y a beaucoup de partenaires qui sont fermés à ce moment-là.
Oui.
Mais on essaye quand même, du coup, par exemple, avec le Centre socioculturel du Drouot à Mulhouse, on a proposé 2 concerts, il y aura aussi un autre groupe qui viendra dans le cadre de Météo Campagne un peu plus tôt, au mois d'août, et effectivement Damon Locks pendant le festival. Donc d'aller aussi vers ce public-là, ces gens-là, parce que oui, public, c'est plutôt aller vers les gens. Et effectivement, il y a plein de questions qui se posent par rapport à ça. Je crois que ça passe par des actions dans l'espace public, peut-être. Ça passe par des partenaires sur le terrain, de développer des choses, des actions, des actions sur le temps long. Ça, oui. J'y crois beaucoup. Alors ça, c'est des moyens, mais peut-être faire autrement et faire beaucoup de temps long, d'accueillir des résidences avec des artistes qui restent plusieurs jours sur le territoire, pour utiliser un mot à la mode en ce moment. Mais en tout cas, qui déjeunent, qui le soir vont boire des verres et qu'on peut faire rencontrer du public comme ça. Ça passe beaucoup par l'humain. Et c'est pour ça qu'on a une réflexion assez poussé, je crois, en tout cas, qui nous intéresse beaucoup avec ma collègue Julia, sur l'horizontalité du festival, c'est-à-dire qu'on a changé de lieu, on est à Motoko depuis 2 ans maintenant, vraiment de manière fixe le soir,
ouais,
et avec cette idée d'avoir presque plus de loges, d'avoir un espace catering qui est ouvert presque à tout le monde, c'est encore pas tout à fait le cas parce que ça pose quelques questions, mais en tout cas ça nous intéresse beaucoup, d'ouvrir les espaces au maximum. Donc à Météo, vraiment quand les musiciens, les artistes sont finis de jouer, ils ne restent pas dans leur loge, il n'y a pas trois loges où les musiciens sont en train de boire des coups et puis après ils rentrent, ils viennent tout de suite au bar, qui est au bar public, et on retrouve les artistes en train de dîner dehors dans cette petite guinguette qu'on a mis en place devant Motoko, et les artistes, les gens qui font des workshops, le public peut rencontrer facilement les artistes et discuter avec eux et elles. Et on a eu des super retours l'année dernière de ça, notamment je pense aux deux musiciens du projet XT, Sam Wright et Paul Abbott, qui nous ont fait un retour par mail de manière très très fine et poussée par rapport à ces espaces et cette horizontalité qui permet que, voilà, que tout le monde se mélange. Et je crois vraiment que c'est important parce que finalement, parfois, il y a les choses les plus importantes, elles se passent hors concert, dans un festival ou dans des propositions artistiques. Moi, j'ai déjà assisté à des discussions, que ce soit avec des musiciens et des musiciennes, sur la vie de famille, comment ça se passe en tournée, quand on rentre après avoir passé 10 jours sur la route et qu'on retrouve sa femme, ses deux ou trois enfants, ou son enfant, ou pas d'enfant. Mais comment ça se passe, tout ça? Et c'est des moments assez forts. C'est aussi ce qui nous arrive sur la partie météo campagne. Puisqu'on se balade un peu sur une dizaine de communes tout au long du mois d'août, avant le festival, sur des projets peut-être un peu moins expérimentaux, mais en tout cas, voilà, avec du jazz et d'autres musiques, mais dans des communes où il se passe parfois rien. Et donc, on débarque comme ça en milieu d'après-midi pour les balances. Et le soir, on voit des familles autour qui boivent une bière, qui mangent une tarte flambée, et qui voient des concerts avec des vrais... Alors, je dis vrais, mais oui, des vrais artistes qui jouent en vrai. C'est-à-dire que c'est pas la télé, c'est pas avec des trucs enregistrés. C'est tout d'un coup qu'ils jouent des vrais instruments. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de sortir. Là, on parle de gens plutôt en milieu rural, on ne parle pas de gens dans les banlieues, c'est plutôt là en milieu rural. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir la réception de ce public-là, qui est vraiment, oui, souvent très emballé par les propositions, parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas des musiques qu'ils ont l'habitude d'entendre à la radio ou à la télé, et qui sont jouées de manière très proche, et parfois pas de scène, comme ça. Et donc ça, je crois vraiment que c'est aussi une manière de faire. Mais il y en a plein, et en même temps, je crois que je suis pas sûr que quelqu'un ait vraiment trouvé la clé absolue, sinon ça se saurait peut-être, pour effectivement faire en sorte que tout le monde se sente la bienvenue dans les festivals, dans les concerts de musique expérimentale, improvisée, musique de création.
Très bien.
C'est vraiment super intéressant comme question.
Mais c'est très bien dit, en tout cas, très bien répondu. Alors, on va peut-être parler de musique, revenir à la programmation. Tu évoques des choses au fur et à mesure, mais moi, je vais te poser d'abord, avant tout, qu'est-ce qu'on a entendu pour commencer? Est-ce que tu peux nous parler de Na?
Oui, alors Na, c'est un tout nouveau projet emmené par le saxophoniste strasbourgeois Rémi Psaume, que je connais depuis assez longtemps, et puis avec le guitariste Raphaël Solosi et la batteuse Salma Doyen. Donc j'ai entendu ce premier titre là en attendant l'euphorie, et quand c'est sorti il y a quelques mois, et j'ai trouvé ça vraiment super parce que je connaissais un peu ces musiciens et musiciennes, et là il y avait quelque chose de plus rugueux, sans aller peut-être sur quelque chose de très radical, il y avait quelque chose d'assez rugueux notamment dans le saxophone de Rémi, et puis la rythmique, enfin il y avait quelque chose qui me plaisait bien. C'est une là aussi il y a un travail autour. C'est un croisement, enfin c'est comme ça qu'il l'explique sur les notes de pochette. Il y a donc un EP de 4 titres qui est sorti sur Bandcamp. Et donc c'est un travail autour de, là aussi, une mélodie éthiopienne. Et eux, ils se disent très influencés par un certain jazz de Chicago, notamment Jamie Branch. Là aussi, on a une pensée pour elle, puisqu'elle est décédée pendant le festival l'année dernière, où elle devait se produire. Oui. Et son disque posthume sortira d'ailleurs le 25 août pendant le festival. Donc là aussi, finalement, il y a un lien fort avec Jamie, alors qu'on n'a jamais pu l'entendre à Météo. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'ils décrivent leur projet, et j'étais très, très content. Et puis, on travaille tous les ans, il y a vraiment un travail, un suivi des musiciens et musiciennes de la région Grand Est, donc ce soit à Strasbourg, à Nancy, on a toujours, moi depuis que je suis arrivé, j'essaye de vraiment travailler, faire un travail de fond par rapport à ces artistes-là, et les soutenir et programmer les projets qui me semblent vraiment pertinents. Donc là, on les a invités pour ouvrir le festival. Ce sera en extérieur, au moment de l'apéro d'ouverture, entre les discours officiels, et en tout cas, on est content, puisque ça fait aussi une sorte de fil rouge sur cette soirée, puisque ensuite, il y aura Mouchot, donc Alexander Hawkins et Sophia Jernberg, dont le projet travaille autour de mélodies traditionnelles éthiopiennes. Et ensuite, on passe dans la scène de Chicago avec Mike Reed, Separatist Sextet, et Damon Lox et Fanny Lafargue. Donc, il y a finalement une filiation comme ça autour de, tout au long de cette soirée qui est venue un peu sur le tard. Mais je pense que ça va être très bien, ce concert en extérieur à Motoko à 18h30.
Ben,
il fera beau, on aura un petit verre de vin de bienvenue. Ah, et, ouais. Et pour lancer les festivités et cette semaine de musique, ce sera un beau moment.
Quelques mots sur Mike Sweet, Separatist Party.
Alors là aussi, c'est un projet, alors nouveau projet, mais que Mike travaille depuis un petit moment avec différents musiciens. Là, ce qui est intéressant, c'est le festival Summer Bummer à Anvers, qui m'a appelé pour me dire qu'ils invitaient Mike Reed et ce projet-là, et que peut-être que ça m'intéresserait de les accueillir également à la même période pour mutualiser les coûts de transport, donc ça c'est toujours intéressant. Donc on accueille ce projet, donc c'est Mike Reed à la batterie avec Ben Lamargue au cornet, Marvin Tate qui est à la fois poète, chanteur, qui avait un groupe de sorte de groupe funk hip-hop assez marrant dans les années 90. Là, ils viennent de ressortir, de faire des rééditions dans un petit coffret comme ça. C'est assez marrant, donc avec des textes très engagés, et accompagné aussi dans le groupe du trio Beachin' Bias, donc il y a un trio aussi de Chicago qui travaille autour pas mal de la musique psyché, avec pas mal de claviers comme ça, de guitare clavier, et c'est un projet qui mélange ces textes et qui est là aussi très engagé, parce que Mike Reed est quelqu'un de très engagé sur la scène de Chicago, hein, vraiment un activiste de la culture à Chicago. Ben Lamargue aussi et Marvin Tate, voilà, qui a ces textes très très corrosifs. Je sais pas si tout le monde comprendra bien l'anglais et les propos à ce moment-là, mais enfin je vous invite à écouter c'est les projets de Marvin Tate. Donc ce sera ça à 21h le mercredi soir.
Et ben je propose qu'on écoute Ben Lamargue, si tu veux bien.
Has shut off my power. I'm living in darkness. You live in darkness, but you don't know it. It's so dark out here I can't even see. And that's the point. You can't see, you won't move. They got you where they want you. Nowhere. Shrouded in confusion, grasping at straws. When you're living like this, you can't envision it.
of possibility. This is where the plan kicks in. You ask me if I can form myself into a giant robot and swallow up this black hole and free the entire universe. My answer to you is yes, 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 yes.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au Festival Météo de Mulhouse, avec son directeur et programmateur Mathieu Chenal. Alors Mathieu, à l'instant on vient d'écouter Damon Knox avec Rob Mazurek, mais à Météo, tu l'as dit, il sera en duo avec Fanny Lasfargue. Lasfargue, hein. Tiens à ce qu'on prononce le S. Pour terminer, ce mercredi soir, est-ce que c'est une rencontre inédite? Et aussi, toujours la question que je te pose tous les ans, est-ce toi qui as décidé de cette rencontre?
Alors, c'est une rencontre inédite, puisqu'ils vont venir, ils arrivent le dimanche soir, et puis ils vont travailler deux jours et demi à Mulhouse, au conservatoire de Mulhouse. Et c'est pas moi qui ai proposé, c'est Fanny. En fait, ça fait un moment que, alors ça fait déjà très longtemps que je connais Fanny, qu'on se connaît avec Fanny. Et on avait parlé de l'inviter en solo à un moment donné, parce qu'elle voulait travailler un nouveau projet en solo. Et finalement, on s'est croisés il y a quelques mois, et elle m'a dit, j'aimerais vachement travailler avec Damon, qu'elle a rencontré à Chicago, autour d'une tournée de The Bridge. Donc c'est un dispositif qui met en relation des musiciens, musiciennes français, françaises et de Chicago, enfin des États-Unis. Donc ça s'est très bien passé entre elle et lui. Il y a eu vraiment une rencontre, mais ils ont jamais joué ensemble. Donc là, il y a vraiment le souhait de Fanny de jouer avec Damon. Et donc moi j'ai dit banco, ça me ferait plaisir d'inviter aussi Damon Knox. Il avait son projet Black Monument ensemble. J'ai finalement découvert une petite vidéo où il joue en solo. C'est vraiment super, avec toujours pas mal de collages, de samples, un peu de soul comme ça, de poésie. Lui, il récite des textes avec un peu d'électronique. Donc c'est assez passionnant. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire ensemble, mais c'est vrai que là le disque qui sort en duo avec Rob Mazurek donne peut-être une petite indication de la direction que ça pourrait prendre avec le jeu de basse électrique de Fanny Lasfargue. Donc j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Ce sera à minuit le premier soir du festival. On fait directement 4 concerts le premier soir, donc on les entendra à partir de minuit le mercredi 23 août, et j'ai vraiment très hâte d'entendre ça.
Alors, je voulais te poser la question de la raison pour laquelle il y avait 4 jours au lieu de 5 jours, mais tu as en partie répondu. Alors, moi, je te répondrais quand même que tu as le prix du billet de train, que tu vois, tu veux l'amortir, tu veux rester un peu plus longtemps. Bon.
C'est vrai, mais rien n'empêche de venir à Mulhouse plus tôt, et de notamment puisqu'il y a quand même des workshops, hein, qui sont proposés comme tous les ans. Donc alors en plus cette année il y a une petite particularité, puisqu'il y a un workshop qui s'adresse aux musiciens, musiciennes, avec le pianiste Alexander Hawkins, qui a lieu du lundi au vendredi, et qui est complet d'ailleurs. Donc il y a 16 ou 17 personnes qui sont inscrites, et il y a un autre workshop avec Maria Chavez, qui est donc DJ expérimentale, qui vit aux États-Unis et qui sera là une partie de la semaine, ou toute la semaine même. Et particularité, puisque ce workshop s'adresse par contre à tout le monde, même les gens qui ne sont pas musiciens ou musiciennes, puisqu'il est totalement consacré à l'apprentissage, ou l'approche de l'abstract turntablism, je vais y arriver, pas évident à dire. Donc voilà, c'est ce que développe Maria, ce DJing, cette technique de platine abstraite, avec vraiment une approche très très singulière de Maria. Et donc on utilisera les platines sur 3 jours et demi. On pourra aussi se proposer faire des DJ sets avec les sons qu'on a envie de faire.
Ah oui.
Et donc c'est un workshop qui est payant aussi, hein, c'est 150 €, avec inclus le prix du pass, hein, donc il y a 80, et qui permet d'être complètement dans le festival, et donc de s'initier et de développer sa pratique, ou même si on n'en a pas de, des platines, et donc de passer plusieurs jours sur le festival, puisque c'est du mardi au jeudi, je crois, le workshop. Ah, où, voilà, où, et puis ensuite, on pourra aussi encore travailler le vendredi au conservatoire quand on fait ce workshop avec les autres stagiaires. Mmh. Donc voilà, c'est aussi cette idée-là. Et alors, moi, j'ai l'idée depuis un moment d'utiliser ce début de semaine aussi pour faire d'autres choses. On avait plusieurs projets d'action dans l'espace public, alors qui malheureusement n'ont pas pu se faire pour des raisons financières. Mais en tout cas, l'idée, peut-être même de déplacer le festival l'année prochaine du jeudi au dimanche, avec une journée aussi un peu différente le dimanche, et d'utiliser ce début de semaine pour faire plus de projets de création, donc d'accueillir quelques résidences sur 3-4 jours, qui permettent de vraiment de proposer des projets inédits et des projets peut-être plus participatif avec je sais pas un grand cœur, avec justement des jeunes dans les quartiers, enfin des jeunes ou des pas jeunes d'ailleurs, enfin imaginez plein de choses qui utilisent cette première partie de semaine vraiment de manière différente, et pour qu'ensuite justement tous ces publics, tous ces gens qui participent à ces projets participatifs, des workshops qui ont lieu, qui pourraient avoir lieu du lundi au mercredi, se retrouvent dans le festival comme une espèce de grand final à partir du jeudi, et faire des grandes soirées. Moi, j'aimerais bien qu'on utilise vraiment les soirées et les nuits, même très tardivement, encore plus tardivement que cette année. Mais bon, ça pose toujours pas mal de questions, évidemment, en termes de récupération et en termes de technique. Mais donc, il y a plein de choses, et en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on y réfléchit beaucoup avec ma collègue Julia, et que tous les ans on essaye d'insuffler des nouvelles choses, des nouvelles idées. On n'a pas du tout envie de rester sur un format fixe, et que tous les ans, pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, les gens, les festivaliers viennent à Météo finalement en sachant ce qui va se passer. Et on a envie de surprendre, d'utiliser des nouveaux lieux, d'utiliser des nouvelles choses, de proposer des surprises, des choses étonnantes, marrantes, et d'essayer d'utiliser vraiment, de décloisonner, parce qu'on voit beaucoup de festivals un peu chiants, hein, faut aussi le dire, et c'est vrai qu'il y a cette envie de proposer d'autres choses, et que ces musiques là qui sont parfois perçues comme justement des musiques un peu élitistes ou un peu chiantes, qui s'adressent toujours au même public, quand on en y emmène des publics qui n'ont pas l'habitude, ils se disent waouh, ah ouais, non, c'est pas du tout comme je pensais. En fait, c'est évident, c'est vivant, c'est marrant. La musique, elle peut être étrange, elle nous interroge, mais il se passe quelque chose à la fois humainement et scéniquement, scénographiquement, techniquement. Et donc ça, c'est vraiment important de continuer à insuffler ça de manière permanente.
Eh ben oui, plein. Alors c'est bouillonnant, c'est plein d'ébullition là. Météo, bah tant mieux. Oui, bah moi je précise quand même aux auditeurs que je vais pas avoir des musiques pour me faire chier, quoi. Je passe pas mes vacances à aller à Mulhouse pour m'emmerder, quoi. Non, c'est vraiment qu'il y a des choses plaisantes, très plaisantes à y voir, à y entendre. Alors, tu sais qu'on parle assez régulièrement de la région Grand Est. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, le fait que vous étiez aidé par la région, puis les collectivités territoriales diverses. Je vais savoir qu'est-ce qui, selon toi, explique l'effervescence dans le Grand Est. Parce qu'en dehors des festivals avec toi et Emmanuel Pellegrini de Densité, on reçoit également pas mal de musiciennes et musiciens du Grand Est. On en a deux, trois, quatre par an qui viennent de chez vous. Comment t'expliques ça ? Est-ce qu'il y a dans le Grand Est une politique volontariste qu'on ne retrouve pas ailleurs, selon toi ?
Je sais pas si c'est par rapport à la volonté politique. Je crois que c'est des artistes qui sont sur le territoire et qui proposent des choses. Oui. Nous, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a poussé certains artistes à se structurer, comme on dit, pour développer leurs activités, puisque à partir du moment où ils sont structurés, ils peuvent déposer des projets, des dossiers de subvention. Oui. Alors c'est toujours laborieux, hein, et compliqué, mais en tout cas ils peuvent potentiellement avoir un peu de moyens pour développer leurs activités, faire des résidences, créer des nouveaux projets. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Quand tu dis que vous voulez pousser, est-ce que vous les aidez concrètement ?
Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est un boulot qui m'intéresse beaucoup, qu'on a fait avec Stéphane Clore, qu'on a un peu fait avec Émilie Scrigel et Tom Malmandier. Moi, je discute beaucoup, alors même si elle n'a pas créé sa structure, mais on discute beaucoup avec Lise Barcas aussi, Maria Laurent, que tu as reçu aussi il y a quelques semaines, me semble-t-il, oui, c'est ça, ou quelques mois. Ouais. Donc, qui c'est que j'oublie encore Non, mais c'est vrai que c'est ce travail-là, moi, m'intéresse beaucoup, d'être en tout cas disponible pour échanger beaucoup avec les artistes, notamment les plus jeunes, mais pas que. Et en tout cas, leur, oui, s'ils ont besoin de conseils, d'arriver à les orienter vers des dispositifs qui sont possibles, aussi de leur dire bon, je pense que c'est pas le moment ou c'est pas la peine de faire oui. ça. Enfin, c'est qu'un avis, hein. C'est pas, il s'agit pas de devenir grand gourou des musiques de création de la région Grand Est. N'exagérons pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse et de leur donner l'espace, en tout cas à Météo, pratiquement à chaque édition, de proposer des choses qu'ils ont envie de proposer, puisque ça m'intéresse aussi de mélanger pendant le festival. On parlait d'éclectisme tout à l'heure, de mélanger musiciens, musiciennes très confirmées et musiciens, musiciennes encore peu connus, alors on dit émergents, mais c'est vrai que c'est intéressant. Là, je prends l'exemple, cette année il y aura le trio L'Impoli. Qui est que moi j'ai découvert à travers Julia Sinois-Méry, donc accordéoniste qui vit à Paris mais qui est originaire de Mulhouse, et elle vient faire des workshops depuis plusieurs années à Météo.
Et
elle m'a sollicité cet hiver pour son projet L'Impoli, et je lui ai dit on va boire un café, et je leur ai suggéré de postuler au dispositif Jazz Migration du réseau AJC. Alors le groupe n'a pas été retenu, mais finalement c'est Simona Castria, la saxophoniste du projet, qui a été retenue pour un autre dispositif d'accompagnement des musiciens émergents du réseau AJC aussi. Donc voilà, il y a cet accompagnement et ce soutien et cet intérêt porté à des musiciens et musiciennes qui sont encore pas très très connus, mais qui développent un langage vraiment singulier ou intéressant. Et alors pourquoi la région Grand Est? Non, ça je sais pas. Après, à un autre niveau, effectivement, la région Grand Est a vraiment un budget pour la culture qui est vraiment important. On a un fort soutien. Nous, par exemple, à Météo, on a vraiment un fort soutien de la région Grand Est, et je sais qu'ils aimeraient encore essayer de faire plus. Enfin, en tout cas, au niveau des conseillères pour les musiques actuelles et musiques de création, il y a vraiment une envie de mettre plus de moyens encore pour développer tout ça. Donc on a de la chance, puisque c'est vraiment pas le cas dans toutes les régions. Donc ça, c'est vraiment bien, et j'espère que ça va continuer surtout.
Eh ben oui. Ouais, ouais. Alors on a parlé de la région, on va parler de Mulhouse, un petit peu des lieux. Et alors, bien sûr, tous les soirs Motoko. Tu avais une précision à donner sur le catering, je crois.
Non, mais on parlait tout à l'heure d'inclusivité ou de comment travailler à tout ça. Et c'est vrai que je l'ai pas dit parce que c'est encore un peu en cours de discussion. Non, c'est plus avancé que ça. Mais c'est vrai qu'on va accueillir. On a travaillé avec. On réfléchit à ça depuis un moment, puisque la Carriole Rouge, donc qui est notre catering, c'est Dominique et Sonia, donc qui viennent donc préparer la nourriture pour tous les artistes, pour toutes les équipes techniques. C'est des gens vraiment hyper investis, puisqu'ils font leurs courses au niveau local. C'est des produits locaux de saison. Ils ont vraiment cette envie là. Donc nous, ça nous convient très bien, puisque on essaye aussi de réfléchir et de mettre en œuvre tous ces sujets là. On est de limiter les bouteilles d'eau en plastique un maximum, et plein de choses qui vont dans ce sens-là. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on se pose la question des restes, puisque il y a toujours des restes au catering, il y a toujours la nourriture, c'est compliqué de prévoir vraiment exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et c'est vrai qu'on en discute depuis un an ou deux et qu'on n'a pas toujours trouvé de solution. Mais cette année, on va travailler avec un collectif qui s'appelle le collectif pour plus tard. Qui est un collectif qui s'occupe de personnes sans domicile fixe, et effectivement ces personnes, ce collectif va venir avec plusieurs personnes en fin de festival sur 2 ou 3 soirées au catering pour dîner au catering, donc avec les équipes et le public, enfin et le public, les équipes et les artistes, et bénéficier effectivement de ces surplus de nourriture qu'on a, et qu'évidemment il s'agit pas de jeter et que si on peut partager tout ça, voilà, c'est vraiment, vraiment plus intéressant. Et puis avec l'idée peut-être aussi que certains d'entre eux ou d'entre elles traversent la salle de concert et puis découvrent, puissent écouter, profiter un peu de musique et puis d'échanger avec le public sur place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et on va voir comment ça se passe. C'est la première fois, mais on est assez curieux et enthousiaste de cette collaboration.
Donc ça, c'est à Motoko, c'est le lieu central un petit peu où toutes les soirées se passent, mais il y a d'autres lieux, et notamment il me semble avoir vu un nouveau lieu. Alors, moi je suis friand de nouveaux lieux. Alors c'est quoi, c'est J'ai pas noté. Ce nouveau lieu, c'est à midi, je crois.
Oui, salle de la fraternité.
Ah oui, c'est ça.
Voilà. Alors, derrière ce beau nom qui nous rassemble. Non, c'est une salle boisée. En fait, depuis qu'on a plus cette petite chapelle Saint-Jean, ouais. C'est vrai que c'est pas évident toujours de trouver des lieux. Et alors, cette année, on voulait aller aux bains municipaux à Mulhouse, qui ont fermé en début d'année, qui est un magnifique bâtiment. Ah. On n'a pas eu l'autorisation. Une fois de plus, commission de sécurité, j'en sais pas. Enfin, pourtant, il y avait du public il n'y a pas longtemps. Bon, ils veulent pas que ça serve à autre chose pour l'instant. Bon, bref. Donc, c'est dommage parce qu'on voulait, je voulais y faire justement le solo de Ben Lamarguet au cornet, puis suite Thibaut Florent. Dans ces bains municipaux, on avait déjà à l'époque accueilli, je crois que c'était Evan Parker qui avait fait un solo là-bas. Donc finalement, on a eu pas mal de galères, de lieux pour trouver un lieu. Et ma collègue Julia travaillait il y a quelques années pour un festival qui s'appelle Scène de rue, festival d'art de rue à Mulhouse, qui d'ailleurs est un peu en danger. Vous pourrez suivre ça sur les réseaux sociaux si vous regardez Scène de rue Mulhouse. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et donc, elle avait visité ce lieu il y a quelques années pour faire un spectacle. Et donc, elle s'en est souvenue. Elle m'a dit, ah, tiens, bah, ce serait peut-être bien d'aller voir cette salle. Donc j'ai eu l'occasion d'y passer. Donc, j'ai une salle boisée qui est pas mal, avec un petit jardin qui permettra de servir un petit verre de vin et une morissette à midi entre les deux concerts. Donc, on y entend effectivement le solo de Ben Lamarguet et le solo de Thibaut Florent, donc sololo autour d'une espèce de réappropriation, non, c'est un peu un mot fort ça, mais une espèce de développement de son travail, des gamelans balinés, enfin de son approche des gamelans balinés, mais à la guitare 12 cordes, donc c'est vraiment très très beau, j'ai hâte de voir ça en live, le disque est magnifique.
Eh ben on va écouter tout de suite, et je précise, c'est bien de la guitare qu'on va écouter.
Oui.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et on parle aujourd'hui du festival Météo de Mulhouse avec Mathieu Chenal. Alors Mathieu, tu sais, moi je viens depuis longtemps à Mulhouse, mais comme je suis pas véhiculé, je ne connais pas l'environnement en fait de la ville. La ville est industrielle, certes, mais je ne sais pas ce qu'il y a autour. Est-ce que ce sont des banlieues, des communes rurales? Et est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus et surtout nous dire comment une programmation culturelle peut prendre cet environnement en considération? Je te demande ça parce que je sais que vous organisez dès maintenant des concerts ruraux, mais je ne sais pas si c'est... Ouais. Ce qu'il en est, quoi.
Bah, c'est une, ça aussi, c'est une large question. Déjà enfin du côté véhicule, toi tu le sais, il y a une navette qui véhicule les festivaliers pendant le festival, une navette gratuite.
Ah moi tu sais je la prends pas, moi je prends les bus. Les bus.
Les autres. Mais...
Oui non pas effectivement.
Non mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'on peut se déplacer à Mulhouse de manières différentes. Le vélo est plutôt.
Ça s'est amélioré,
s'il y a encore beaucoup à faire. Ouais. Mais bon c'est quand même plutôt bien. Le bus effectivement il y a des bus publics, mais il y a aussi cette navette de festival gratuite qui emmène les gens vers Motoko en début de soirée et qui les ramène à minuit après le dernier concert, 1h30 ou 2h du matin le vendredi soir.
Et puis qui fait les liens entre les lieux aussi, hein, c'est ça?
Pas en journée, non, quand en même pas. Non, parce que les lieux en journée, c'est plutôt au centre-ville, enfin c'est accessible. Oui, c'est donc, mais par contre, c'est vrai que le séchoir, le jeudi ouais. À 17h30, on peut y aller en navette gratuite du festival, ouais. Voilà, et ensuite le séchoir Motoko, c'est à côté. Enfin, tout ça est expliqué sur le site. En tout cas, il y a les horaires de navette, etc. Et puis, c'est une ville. Mulhouse est une ville assez passionnante avec une histoire industrielle très forte. Et donc avec cette colline, le Reberg, qui est plutôt le quartier riche de la ville, puisque c'est vraiment la colline qui abrite des grandes maisons de maîtres et de riches industriels. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Et un centre-ville qui est finalement assez petit. Et qui est plutôt un centre-ville commerçant, on va dire, avec une place de la Réunion, une place centrale. Mmh. Et autour de ça, dès qu'on sort de là, on est très vite dans des quartiers plus populaires. Mmh. Autour de Motoko, par exemple, il y a vraiment ce quartier qui est un ancien quartier ouvrier, c'était quand, fin du 19e, je pense. Il y avait donc Motoko, c'est l'ancienne friche DMC, donc DMC c'est une usine de textile. Et donc tout le site autour est peuplé de bâtiments industriels qui sont en friche et avec des projets de réhabilitation. Il y a quand même une petite partie de l'endroit qui fonctionne encore pour le textile. Et aujourd'hui, Motoko, donc c'est le bâtiment dans lequel on est pour le festival. C'est donc deux pièces mises en location en bas, au rez-de-chaussée. Et au-dessus, il y a deux étages avec des ateliers d'artistes, avec des loyers qui sont vraiment pas chers et donc qui permettent à beaucoup d'artistes de Mulhouse de travailler sur place. Donc c'est vraiment une ruche culturelle assez passionnante, où il se passe beaucoup beaucoup de choses. Là cet été il y a aussi une guinguette vraiment très sympa derrière Motoko où on va boire des verres assez souvent. C'est vraiment vraiment très très sympa. Et donc ce quartier autour, quartier ouvrier qui effectivement était pour les ouvriers de DMC à la fin du 19e et ensuite a été plutôt pour les ouvriers de l'usine Peugeot.
Ah oui.
puisqu'on a une usine Peugeot qui n'est pas au centre-ville à Mulhouse, qui est un peu à l'écart. Les gens ils vont en bus, enfin en tout cas les ouvriers, il y a toujours des lignes de bus pour aller à l'usine. Et puis ensuite, il y a pas mal de quartiers tout autour, je pense à Bourzvillers, au Drouot, au Coteau. Donc c'est une ville assez passionnante, qui est une ville assez pauvre de manière globale, avec quand même des poches de grandes richesses. Et une ville quand même de droite, avec effectivement beaucoup, ah oui, quand même des gens, des notables de la ville. Donc il y a quand même aussi un truc comme ça, une sorte de dichotomie de quelque chose qui se mélange pas vraiment, oui, on peut pas dire, avec effectivement des gens très riches d'un côté et très bourgeois d'un côté, et de l'autre effectivement vraiment une ville plutôt pauvre et très très jeune, puisque c'est une des villes les plus jeunes de France.
Ah oui.
Et c'est une des villes où il y a le plus de nationalités différentes aussi, je crois, en France, avec je crois qu'on est autour de 120 nationalités différentes représentées à Mulhouse. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez passionnant. Il y a plein de choses qui se passent aussi dans ces quartiers. Je pense au Coteau avec l'AFSCO, enfin avec des centres socioculturels, au Drouot avec le BOAT, le CSC Drouot, avec lequel on va accueillir Damon Locks. Donc il y a vraiment quelque chose de passionnant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est, moi j'essaye un peu de me battre pour avoir un peu des moyens pour développer une saison ou une activité aussi en cours, oui, d'année, pour pouvoir justement aller faire des projets aussi à l'écart de la ville, enfin à l'écart du centre-ville, pour aller dans ces quartiers périphériques qui sont où il y a vraiment des super choses. Tu parlais de lieux différents, oui, ça t'intéresse toujours. Il y a des lieux super dans ces endroits-là, dans l'espace public aussi, et puis il y a évidemment des gens bien sûr qui sont passionnants. Donc moi j'aimerais bien arriver à développer pas mal de choses dans ces lieux-là, mais c'est vrai que la temporalité du festival sur 4 jours, on peut malheureusement pas, ouais, faire 50 concerts par jour et se retrouver, on n'a pas l'équipe nécessaire pour faire encore une, ouais, programmation périphérique, donc c'est pas évident.
Mais alors pour autant, vous faites Météo en campagne,
ouais,
en campagne,
ouais,
donc
ouais,
ça c'est où alors? C'est pas dans les quartiers dont tu parles?
Non, Météo en campagne, alors on a un concert quand même à Mulhouse, mais en plein centre, mais sinon c'est dans des communes qui sont autour de Mulhouse, ouais. Donc on est à la Fondation Schneider à Wattwiller, qui est une fondation d'art contemporain, et puis ensuite on est à Bansonheim, à Sirens, à Unsbach, à Lutherbach, Fastat, Haute-Marsheim, Hombourg, et même en Allemagne, donc à la frontière allemande, à Neuenburg am Rhein, ah oui, qui est une commune vraiment juste de l'autre côté du Rhin. Donc ouais, on sillonne un peu comme ça des villages, enfin des communes on va dire, parce que elles sont différentes tailles, mais c'est assez marrant parce que selon les endroits, il y a vraiment il y a des endroits, ça ressemble pas à grand chose, hein, quand même. Enfin, dans le sens où on arrive le samedi à 15h pour les balances, il y a vraiment rien. On voit personne. Si on voit un chat traverser la route, c'est vraiment, il y a la petite fontaine qui coule, mais c'est pas, enfin. Et puis le soir, tout d'un coup, à 19h, les gens arrivent, parfois en dimanche, parfois non. Entre eux, ils commandent une bouteille de vin. Et puis on travaille avec les communes pour ça, mais c'est vrai que c'est marrant de voir, souvent des associations locales. Alors c'est l'amicale des pompiers, les joueurs de foot, j'en sais rien, qui tiennent la buvette. Ou le Nashville Country Club de Bansonheim. Donc c'est ce mélange de ces rencontres, c'est assez marrant, je dois dire. Ouais. C'est vrai que parfois, de loin, quand on est au cœur de l'hiver, on se dit pourquoi on fait ça? C'est quand même bon, on a envie de se concentrer un peu sur météo et sur, ouais, des musiques, voilà, plus intéressantes, etc. Et finalement, je sais que quand j'y suis, moi, il y a quand même une satisfaction et on se rend compte qu'on fait vraiment une mission de service public, oui, d'emmener ces musiques et ces musiciens, ces artistes-là, dans ces communes où il se passe pas grand-chose, voilà. Et donc les gens sont plutôt devant la télé pour beaucoup. Et là, enfin, il y a de la réunion, il y a de la vie. On mange ensemble. C'est plutôt chouette. Donc on va garder ça. Non, c'est vraiment important. Oui.
Ça a commencé hier, c'est ça?
Oui, alors ça a commencé hier, mais pas vraiment à la campagne, parce qu'on était à Strasbourg.
Ah oui, d'accord.
Alors, avec notamment, il y avait Anthony Laguerre, oui, donc musicien de Nancy, qui me disait, ah ouais, c'est marrant, effectivement, de jouer pour Météo Campagne à Strasbourg, c'est pas mal. Mais non, voilà, on a fait une excursion, une incartade exceptionnelle à Strasbourg. C'est la première fois qu'on fait ça. Mais c'est vrai qu'on était, c'était une soirée particulière, puisqu'on voulait travailler un peu justement en synergie avec plusieurs acteurs de la région Grand Est, donc avec l'association Motrice, donc qui gère les activités d'Anthony Laguerre à Nancy, et le festival Les Habités, qui est organisé par Elisa Ostertag, Anne Montaillier, Stéphane Clore à Strasbourg, oui, qui aura sa deuxième édition là cet été, du 21 au 23 juillet, avec une super programmation aussi à Strasbourg dans différents lieux. C'est, oui, vraiment très très beau. J'étais l'année dernière pour la première. Donc en fait, voilà, c'était montrer qu'on faisait ensemble et que tous ces gens étaient en connexion. Donc c'était une belle soirée à la Grenze, qui est une friche industrielle aussi derrière la gare à Strasbourg, avec le projet LS d'Anthony Laguerre et J.W. Sock, l'ancien chanteur de ZX.
Ah ouais.
Et donc, on en parlait tout à l'heure, Marion Camille Palou avec son projet Nacre, guitare électrique solo, qui était absolument incroyable, vraiment magnifique. Et qu'on retrouvera d'ailleurs Marion avec son projet Electrodite Palace à Mulhouse fin août.
Eh ben oui, revenons à la programmation de météo, si tu veux bien. On va écouter The Dwarf of East Agusa. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un projet égypto-américain avec Alan Bishop, qui est aussi le fondateur du label Sublime Frequencies, label incroyable de réédition de sons mondiaux. Et Maurice Luca, donc, qui est un musicien du Caire, mais qui vit en partie à Berlin. Et Sam Chalabi, qui est aussi entre Berlin et le Caire. Donc, ouais, c'est vraiment une musique de trance, puisque c'est guitare, basse et un peu d'électronique, clavier. Et ouais, musique de trance qu'on va écouter debout à minuit le jeudi soir. Et qu'on a mutualisé aussi. Alors, c'est nous qui payons les transports parce qu'on a un peu plus de moyens. Mais en tout cas, on travaille tous les ans avec Baignade Sauvage, donc festival qui a lieu dans le Tarn, du coup, ouais, pas loin d'Albi. Et donc, on échange avec Benjamin Momus qui s'occupe de ce festival tous les ans sur le fait de pouvoir mutualiser, en tout cas d'avoir une deuxième date, voire une troisième parfois avec d'autres festivals. Et donc il y a plusieurs musiciens, musiciennes. Bon, eux, c'est ceux qui viennent le plus loin. Donc ils vont ensuite à Baignade Sauvage le lendemain et pour avoir une deuxième date, donc tant mieux. Et Tatiana Paris et Sakina Abdou feront aussi le voyage entre Mulhouse et Baignade le lendemain de leur concert ou deux jours après. Donc c'est assez marrant, ces connexions entre deux festivals. Bon, on n'a pas la même taille et la même ampleur, mais en tout cas, on travaille ensemble, on discute pour que de nos jours... ou de nos jours de transition écologique où on est quand même très très en retard, voire même, bon, on va pas dire que c'est perdu, mais enfin en tout cas il faut y aller là maintenant, ça c'est sûr. Donc c'est bien d'avoir ces partenaires et ces connexions là avec avec des gens intéressants, et donc ça va être un super projet. Voilà, ils sortent là bientôt un nouvel enregistrement, enfin c'est des enregistrements live qui ont déjà eu quelques années je crois, mais en tout cas des longs morceaux, des longues plages de 20 minutes, et je pense que ça va vraiment être terrible, dans la nuit mulhousienne. We'll be right back.
Les oreilles libres sur Radio Libertaire, et puis on parle du festival Météo avec Mathieu Chenal. On parlait un petit peu en antenne là. Alors Mathieu, tu as publié un texte sur les réseaux commerciaux, à vocation commerciale, on dit sociaux, mais bon, concernant la mort de Naël et les révoltes qui ont suivi. Tout simplement, qu'as-tu dit ?
Qu'ai-je dit ? Alors c'est long, c'est un très long poste, mais non, en fait, ça répondra à rien. C'est juste quelque chose qui vient après une accumulation de choses. Ouais. La première, c'est la prise de parole ou l'absence de prise de parole d'acteurs et actrices culturelles, ouais, de manière globale. Alors moi, j'en suis un modeste, hein, évidemment. Je ne gère pas une grande scène ou une salle connue. Enfin, au niveau française, enfin, j'ai, voilà. Mais je pense que c'est important de le faire, de se positionner. Ça vient aussi après des propos, des posts, on va le dire très clairement, de politique, et notamment chez nous, de la municipalité, que j'ai trouvé particulièrement déplacé. C'est-à-dire que quelques jours après la mort de Naël, il y avait des posts qui circulaient, partagés par les élus pour le Rassemblement républicain, contre les émeutes et les violences urbaines, enfin ce qu'ils appellent violences urbaines. Mmh. Donc en gros, le jeune qui a été assassiné par la police à bout portant, on n'en parle plus, puisque oui, dans aucun poste il était fait mention de Naël. Mmh. Par contre, les voitures brûlées, on en parle. Et ça, je pense que c'est ce que je dis dans le poste, mettre tout sur le même plan, même voire mettre plus, dramatiser plus une voiture brûlée ou une vitrine cassée. Et bon, les vitrines, évidemment qu'il y a des petits commerçants indépendants qui ont été touchés, bien sûr, mais il y a aussi eu beaucoup d'Apple Store et d'autres conneries du même genre, qui vont avoir les moyens de réparer assez facilement, je pense, et qui sont quand même des entreprises qui sont des entreprises d'esclavagisme moderne, puisque c'est quand même des entreprises d'exploitation qui basent leur activité sur l'exploitation, que ce soit l'Apple Store, que ce soit McDo, que ce soit H&M ou d'autres. Donc à un moment donné, il faut mettre les choses sur le même niveau, ou en tout cas mettre plus l'accent sur la destruction matérielle que sur la mort, et en l'occurrence l'assassinat d'une personne, et encore plus un enfant, me semble quand même hautement problématique dans la perception qu'ont ces gens-là de la vie. Maria Chavez, qu'on accueille cette année, DJ expérimentale, parlait l'autre jour, je la voyais dans une présentation de son travail, elle joue beaucoup avec des vinyles cassés. Et elle disait, on s'en fout, déjà c'est plus intéressant quand c'est cassé. Et en plus, elle dit, je vous rappelle que c'est les gens qui ont des sentiments et pas les objets. Oui. Et j'ai trouvé ça très, à la fois très drôle et très fin et très juste. Et donc là, c'est pareil, la voiture brûlée, évidemment que, pareil, il y a des personnes qui vont devoir aller au travail le matin et que c'est problématique. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça reste, ce ne sont pas des émeutes, ce ne sont pas des pillages, c'est des révoltes, c'est une révolte d'une partie de la population qui est complètement, à la fois délaissé et à la fois opprimé, vraiment, et on ne peut pas, enfin moi en tout cas à ma place, je ne peux pas me rendre compte de ça, donc ça me pousse par contre à me renseigner et à m'informer de ça, puisque en tant qu'homme blanc qui ne vit pas dans les quartiers, je ne suis pas des contrôles d'identité toutes les 5 minutes ou de manière quotidienne. On se rend pas compte de la violence de ça. On a vu des images, évidemment, enfin moi c'est les images qui me choquent le plus, c'est quand même ces forces de l'ordre surarmées et qui tiennent en joue des jeunes et des moins jeunes dans les quartiers pour des raisons qui me semblent pas tout à fait intéressantes, avec des armes quand même hyper sophistiqué. Donc il y a un problème, et encore une fois, il y a ce problème aussi de décalage, puisque j'ai vu une image, une photo justement de la municipalité à Mulhouse avec des gens quand même d'un certain âge, blancs, avec l'écharpe ou sans écharpe, réunis à la mairie, contre les violences, contre les vitrines et les voitures brûlées. Et en fait, zéro diversité, pas de jeunes, et c'est des gens, du coup, on ne sait pas d'où ils parlent, enfin, je ne comprends pas, ils parlent de nulle part, et d'ailleurs, ils disent rien. Donc c'est quand même assez problématique. C'est pas eux qui vont résoudre la situation. situation. Et on en revient à cette absence de prise en compte de la parole, de la jeunesse. Et quand je dis jeunesse, c'est vraiment large. Mais effectivement, on a vu les répressions qu'il y a eu pendant la réforme des retraites, l'invisibilisation de plein de personnes qui ont des propos intéressants sur ce que ça va leur coûter, la réforme des retraites, leur coûter au sens d'espérance de vie, de travail en plus, de travail laborieux en plus. Et là encore, c'est des gens qui sont pas concernés par ça, qui mettent en place ces lois et qui font de toute façon, on vous écoute pas. Vous êtes plus nombreux, mais on va vous écouter quand même parce que nous, on a raison. On est vieux, on est des mecs blancs, on a raison. Et donc, c'est quand même assez problématique. Et je pense qu'on va vraiment dans le mur avec ça. Alors, j'apporte évidemment pas de solution, mais ce qui m'intéresse, c'est comment nous, qui travaillons dans la culture, on peut à un moment donné à la fois se positionner et travailler à ce que ça change.
Eh bien, pourquoi c'est important? C'est ça ma question. Pourquoi c'est important que toi, par exemple, ou que les gens dans la culture s'expriment? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, c'est pas plus légitime que d'autres, et pourquoi?
Non, bien sûr,
mais on va plus écouter que d'autres, on sait rien.
Bien sûr, mais c'est pas une histoire de comment dire, de hurler et de dire ah moi j'ai raison par rapport à d'autres. Il faut absolument s'exprimer. J'entends, si les gens ils se sentent pas de s'exprimer là-dessus, c'est pas un problème. Moi je pense qu'il faut s'exprimer parce que y a toujours un moment où on est entendu quelque part quand même. Alors parfois c'est laborieux, on n'a pas l'impression, mais il y a quand même toujours un moment donné où le message arrive quelque part. J'en parlais hors antenne. Mais ma collègue Julia et avec d'autres personnes à Mulhouse avec qui je travaille aussi parfois ou que je connais ont monté un collectif de soutien, un festival d'art de rue à Mulhouse que la ville a détricoté en tout cas cette année en promettant qu'il reviendra à la normale l'année prochaine. C'était l'événement majeur de Mulhouse, culturel majeur de Mulhouse pendant l'été, ça s'appelait le festival scène de rue. Donc, ils ont monté un collectif et ils se sont montrés très incisifs et très pertinents, évidemment, parce que c'est des gens très renseignés et très intelligents et intelligentes qui ont lancé une pétition avec des arguments évidemment factuels hyper forts et hyper détaillés. Et la ville a été très désarçonnée par ça, n'a pas su répondre, ne sait toujours pas répondre, 6 mois après, n'a pas répondu. Et en fait, aujourd'hui, sur les réseaux, on voit bien qu'il y a plein de gens qui sont pas dans ce collectif, que le collectif, ou que moi, parce que je connais un peu les membres du collectif, là, qui s'est monté contre la disparition de ce festival, il y a plein de gens qui commentent en disant, non, c'est pas normal, là, c'est un truc pour les enfants, donc nous, ça nous exclut, alors que c'était super avant. Et donc, finalement, le message qu'a porté ce collectif, qui s'est opposé à la disparition du festival a quand même fait passer des messages dans la presse, sur les réseaux, et donc la ville a essayé de minimiser en disant oui ça concerne 3-4 personnes qui râlent, mais en fait les gens ça ira très bien, c'est pas vrai. Et donc la ville, on a bien senti qu'ils en peuvent plus. Ils ont reçu des courriers, on les a appelés, les gens les ont appelés, ils sont sur les réseaux à chaque fois qu'ils postent un truc, les gens font ah oui mais c'est du coup c'est plus pour nous. Je crois qu'ils en peuvent vraiment plus et je pense que du coup ils refont plus la même connerie parce que c'était un festival vraiment majeur. Alors qu'il y ait des problèmes d'argent, c'est sûr, mais il y a des choix à faire, il y a des échanges à faire avec les acteurs culturels et d'autres sur le territoire. Il y avait sans doute des solutions à trouver, mais de faire ça comme ça, c'était pas très intelligent et c'était une erreur évidemment. Donc voilà, c'est intéressant de faire passer le message. Moi je sais qu'il y a des élus ou des gens qui me suivent sur les réseaux, on est amis entre guillemets de façon sur les réseaux sociaux. Donc ils voient bien qu'à un moment donné il y a quand même des gens qui partagent, qui commentent, qui likent, des gens qui pourraient râler aussi, hein. On m'a demandé, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit t'as pas eu des retours négatifs par rapport à cette prise de parole qui encore une fois reste modeste. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a 80 likes que la France nous écoute, hein. Et puis bon, j'ai pas cette prétention là évidemment, mais en tout cas c'est intéressant d'ouvrir les débats. Il y a des gens, Fabien Barontini, ancien directeur de Son d'Hiver, m'a appelé notamment pour en discuter prochainement parce que lui aussi vit dans la banlieue parisienne et donc m'a dit j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'aimerais bien qu'on en discute un jour autour d'un café pour échanger un peu sur tout ça. Mais après moi ça ouvre, c'est plutôt aussi des postes qui pour moi se veulent tenter d'ouvrir des pistes de réflexion, des ports de réflexion. Effectivement, comment intégrer ces jeunes Alors, comme dit, de quartier, je le mettais entre guillemets, parce que j'aime pas ça, dire en fait de quartier, de banlieue. Bon, enfin, c'est toujours un peu. Bon, ça fait partie intégrante d'une ville, hein, voilà, oui. Donc c'est pas des zones à part. Mais en tout cas, comment on voit bien que oui, il y a un manque de diversité criant dans nos salles. Donc ça passe déjà par programmer aussi des artistes, déjà des femmes, plus de femmes, parce que évidemment s'il y a que des mecs dans la salle, il y aura aussi que des mecs, enfin, ouais. Il y a un moment donné, et puis ensuite ouvrir aussi à plus de diversité, aux personnes racisées et à d'autres gens. Alexis de Grenier, le musicien Alexis de Grenier m'a fait un super retour par rapport à ça quand je l'ai croisé à Bruisme là ce week-end, en disant ah, ta prog, elle est voilà, je la trouve super, parce que justement il y a des personnes d'origines différentes, il y a quand même pas mal de musiciennes, etc. Donc il dit c'est pas dans tous les festivals qu'il y a autant de diversité. Il y en a évidemment. Hein, on n'est pas du tout un exemple ou le festival où ça se passe. Hein, bien sûr, il y a plein de collègues qui œuvrent aussi là-dessus et d'autres mieux ou d'autres moins bien, mais peu importe. Et l'important c'est que ce soit dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc mais je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui souffrent ou qui se plaignent que effectivement le milieu culturel ne s'empare pas de ça, de ces sujets-là, et je crois que c'est aussi notre rôle de travailler à ça. Maintenant, c'est un poste. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce qu'il faut faire une soirée ou un concert en soutien? Est-ce qu'il faut, voilà, il y a plein de choses. Enfin, je dis ça, j'ai pas d'idée précise. Il faut y réfléchir, il faut travailler. Mais ce qui est important, je crois que c'est vraiment de lire. Effectivement, on en parlait hors antenne. Pourquoi ça se passe? Ces émeutes, qui ne sont pas encore une fois pas des émeutes, mais une révolte. Et c'est pas ça qui est grave en soi. Ce qui est grave, c'est quand même la base, c'est la mort de cet enfant assassiné par la police, avec un système évidemment, avec un racisme qui est quand même systémique. Enfin, je dirais, arrêtons de tourner autour du pot là-dessus. Il y a évidemment un racisme systémique dans la police. Je veux dire, c'est étayé hein, par les faits. Et ça ne veut pas dire que tous les policiers individuellement sont racistes, bien sûr, mais il y a quand même un système qui pousse à ça. Et effectivement, ça pose d'autres questions sur un système patriarcal aussi, et plein d'autres choses, et le racisme de manière générale dans la société qui ne disparaît pas, avec malgré toutes nos tentatives et nos beaux discours. Il prend même de l'ampleur, j'ai l'impression, donc c'est quand même assez problématique, cette intolérance qui rampe, qui continue à ramper envers plein de personnes, en fait. Donc ça, c'est quand même, je crois qu'il faut vraiment se battre, continuer à se battre sans faiblir par rapport à ça, et pas laisser passer, et pas être dans le mou, dans le truc, attention, la violence, vous savez, c'est pas bien, et pas mettre sur le même niveau l'agression effectivement d'un élu de la République qui est évidemment à condamner, mais bon, c'est presque, ça n'arrive pas tous les jours, même s'il y a une petite recrudescence, etc. Et là, encore une fois, la mort d'un, voilà, il y a aussi deux éditos dans le journal qui m'ont agacé sur les symboles républicains. Ah non, on ne touche pas un élu, une ligne est franchie, on a touché un élu. Bon, la ligne, elle a été franchie déjà, je crois, il y a un moment, mais elle a été largement franchie avec la mort à bout portant, enfin le meurtre à bout portant de Naël par les forces de l'ordre. Ouais. Elle n'a pas été franchie trois jours après par l'agression d'un élu chez lui, même si c'est évidemment condamnable et que je ne sais pas du tout ce que je souhaite. Voilà. Et puis quant au bâtiment public, c'est des dommages collatéraux, encore une fois, d'une révolte de jeunes qui sont dans une oppression quotidienne et à laquelle il y a pas mal de personnes bourgeoises, blanches, dans des mairies ou ailleurs, ne peuvent pas comprendre, n'y comprennent absolument rien.
Ouais, c'est clair. Bon, merci de rappeler tout ça, en tous les cas, et puis de rappeler que la mort de Naël, avant tout les destructions de vitrines, hein, effectivement. Tu sais, moi j'habite à L'Haÿ-les-Roses, hein, je t'en ai parlé hors antenne. Ouais. On a subi le cirque médiatique pendant des jours. Je suis allé trouver les journalistes, je leur ai demandé, mais vous ne vous posez pas une seule fois la question de pourquoi ça arrive à ce maire-là, à ce moment-là. J'aurais donné des précisions que je t'ai dites hors antenne. Et le soir, j'ai regardé le reportage de France 24, puisque c'était eux. Absolument rien de ce que j'avais dit. Et puis, bien sûr, par contre, ils se permettent de dire que la population est unanime derrière leur maire, quoi. Ce qui est totalement faux. Hein. Ouais. Puis je voudrais préciser aussi, puisqu'on parle de culture, que la femme du maire, c'est pas la femme du maire, c'est l'adjointe à la culture, à la mairie de L'Haÿ-les-Roses. Hein, moi, ça me parle, en fait, en tant qu'habitant. Puis j'aurais plein de choses à dire, mais c'est pas le sujet de l'émission. Merci aussi de rappeler dans ton poste qu'il y a pas si longtemps, quelques mois, il y avait déjà des révoltes à propos de cette réforme des retraites. Hein. Je crois que j'ai pas tellement non plus entendu le lien entre ces révoltes et à propos des retraites et les révoltes actuelles, enfin de la semaine dernière. Or, bon, les quelques sociologues ont quand même eu le droit de dire sur les médias qu'il y avait un tiers de jeunes, un tiers de d'ultra gauche. Alors je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Puis un tiers de gens opposant à Macron. Ce qui veut dire qu'il y a un tiers de jeunes, quoi. Hein, parce que là, on nous parle de supprimer les allocations familiales ou je sais pas quelle connerie, mais... Bon, voilà. Et par rapport à ce que tu dis aussi, tu sais, alors moi, que j'ai fait toutes les manifs et puis autorisé, puis quelques-unes en plus, et j'étais assez sur les nerfs, assez épuisé, et je faisais cette émission-là tous les vendredis, j'avais un peu de mal, là, pour tout te dire. Et je me suis posé la question de l'absence ou du très peu de prise de position des milieux culturels, des milieux de nos musiques qui se prétendent quand même en marge et hors commerce et tu vois un peu contestataire, disons-le. Qu'est-ce que ça reflète pour toi? Est-ce que c'est une peur de s'exprimer, pourquoi pas? Est-ce que c'est de l'indifférence ou est-ce qu'on est des milieux sociaux différents? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, bah c'est il y a quand même ça. On l'a constaté effectivement à certains moments de où des festivals, des choses étaient en danger au niveau local à Mulhouse, mais ça peut être aussi ailleurs, que certains acteurs étaient très frileux quant à leur envie de s'exprimer, enfin leur envie. Est-ce que c'est, enfin, il y a peut-être pas d'envie d'ailleurs, mais c'est très facile pour beaucoup de s'exprimer sur des sujets quand ils sont un peu lointains, parce que bon, finalement, s'exprimer sur la fermeture d'un théâtre à Calais quand on est à Mulhouse ou à Toulouse, bon, on risque pas grand-chose. Mmh. Quand c'est dans la même ville, évidemment, il y a cette peur du gendarme, enfin la peur du subventionneur. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Alors, on le voit évidemment en région Rhône-Alpes avec Wauquiez et sa vision assez dramatique, catastrophique de la culture. Mais en tout cas, ouais, cette peur du gendarme qui fait que si on s'exprime, on sera forcément puni et qu'on va nous retirer nos subventions ou les baisser ou nous faire payer une prise de position. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit là-dessus. C'est vraiment important. Je crois qu'il faut qu'on soit unis. En tout cas, que justement, on n'est pas peur de ça, et que plus on sera d'acteurs et d'actrices culturelles à s'exprimer, mais de manière, on n'est pas obligé d'agresser ou de traiter de tous les noms les élus, on peut, je crois qu'on peut affirmer des choses fermement et s'inquiéter de choses qui, de festivals ou de saisons qui diminuent, qui ne peuvent pas avoir lieu faute de moyens. Je pense que c'est vraiment important. Il y a évidemment la proposition artistique, mais derrière ça, il y a effectivement des artistes. Il y a des prestataires, il y a des équipes techniques, des intermittents, intermittentes, et tout ça, dès qu'il y a il y a un moment culturel qui s'arrête, qui est supprimé, c'est des gens qui deviennent encore plus précaires, parce que on peut pas dire, enfin de toute façon dans la culture, voilà, on est quand même nombreux et nombreuses à être